Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, Canal Académie se réjouit de recevoir aujourd'hui Didier Decoin, scénariste, écrivain, récompensé du prix Goncourt en 1977 pour John L'Enfer et du prix des libraires pour Abraham de Brooklyn. Bonjour, bonjour. Didier Decoin. Didier Decoin, vous êtes devenu secrétaire général de cette Académie Goncourt dont je parlais il y a un instant en 1995. Vous l'êtes toujours.
Ah oui.
Vous veillez toujours à ces belles destinées. Et depuis 2007, vous êtes président de l'association Écrivains de Marine. Vous l'êtes toujours ?
Oui, c'est même plus qu'une association, c'est un corps.
Alors justement, quelques mots.
Écoutez, c'est une chose qui a été fondée par un académicien français qui était Jean-François Degnaud, qui rêvait d'instituer quelque chose à l'image de ce que sont les peintres officiels de la marine, mais au niveau des écrivains. Donc nous sommes 20, définitivement 20, c'est-à-dire qu'on n'augmentera jamais le nombre. Si l'un de nous disparaît, il est remplacé, mais il n'y en aura pas 21. C'est quand même des gens très très bien. Enfin, je me permets de ne pas citer les 20, mais il y a des gens très très bien.
Et la création, parle de quoi ?
Alors, le postulat est le suivant. Il faut être, pour être écrivain de marine, il faut être écrivain, par définition, naviguer ou avoir navigué, peu importe sur quel type de navire, et avoir, on va dire, des affinités électives avec la marine nationale. À partir de là, on peut être appelé à devenir écrivain de marine. Nous faisons partie de la réserve. Donc, nous sommes officiers de marine avec le grade de capitaine de frégate.
Et vous avez navigué, Didier, de coin ? Ou ben moi, avez-vous écrit sur ?
Non, moi, j'ai un bateau. Et alors, je ne suis pas un tourdumondiste, hein, mais c'est vrai que je vais très, très souvent sur l'eau. Et quand je ne peux pas aller sur l'eau, vous le voyez tout de suite, je suis pris de tremblements incoercibles parce que je suis en manque. J'ai besoin.
Ah, c'est
de...
un réel besoin, alors.
Ah, oui, moi, l'eau, j'ai toujours mis dans. Je crois que je n'ai pas un livre sans qu'il n'y ait un bateau ou un plan d'eau. Et j'ai vraiment besoin de me retrouver à la barre de mon bateau. C'est totalement vital.
Vous êtes du littoral ? Vous êtes né le long ?
Non, alors je suis né, attendez, entre deux studios de cinéma, ce qui est normal vu mes ascendants, à Boulogne-Billancourt, mais pas loin de la Seine, à une époque où les péniches klaxonnaient encore, enfin klaxonnaient, faisaient mugir leurs sirènes. Alors moi, de ma chambre, j'entendais ça, de mon petit lit, et ça m'évoquait Jules Verne, L'île au trésor, Édouard Pesson,
les
Joseph
grandes
Conrad,
partances, les grands voyages
de ces péniches. Et voilà, et je suis tombé amoureux de la navigation quand j'étais petit garçon.
Alors justement, cela nous amène à parler du livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Didier Decoin, un livre paru chez Plon, Dictionnaire amoureux de la Bible, car c'est un livre, vous allez nous l'expliquer dans un instant, qui vous a fait beaucoup voyager, vous l'homme des voyages, voyage sur mer, mais aussi voyage sur terre. Alors donc, amoureux, dictionnaire amoureux de la Bible, amoureux, le mot vous convient déjà très bien, amoureux de la vie, de la littérature, de l'image, donc du cinéma, comme le fut naguère votre père, l'écrivain, scénariste, réalisateur Henri Decoin. Et on peut se dire alors, la Bible, et vous posez la question, la Bible, une transmission familiale, culturelle, cultuelle, dans la famille déjà ?
Non, ça a été une rencontre avec un petit bouquin. J'allais au catéchisme, hein, comme tous les petits garçons sages, et j'avais un petit bouquin qui s'appelait « L'Histoire sainte ». Alors, ce n'était pas la Bible, mais c'était des histoires de la Bible. Et pour appâter les jeunes esprits, on nous avait mis dans ce petit livre les histoires les plus rocambolesques, les plus héroïques. Alors, Moïse écartant les flots de la mer Rouge, Salomon voulant couper un bébé en deux pour savoir à quelle mer il appartenait, David avec sa petite fronde tuant l'énorme géant Goliath. Et moi, en tant que... J'étais déjà un lecteur de livres d'aventure, de BD, tout ça. Je trouvais ça extraordinaire, surtout quand on me disait « mais c'est des histoires vraies, c'est vraiment arrivé ». Donc je suis tombé à ce moment-là amoureux de cette écriture sainte. Ce n'était pas le côté saint, vous voyez, soyons honnêtes, hein, qui me fascinait.
Le côté héros, le côté repère.
C'était le côté héros et de me dire « je pourrais être David, je suis haut comme trois pommes, je pourrais faire comme David, abattre des géants ». Plus tard, j'ai perdu le peu de foi que j'avais, je l'ai retrouvé depuis. Mais à une certaine époque de ma vie, je suis devenu un athée pratiquant et convaincu. Mais la Bible me servait de référence littéraire. C'est quand je commençais d'écrire, et je me dis, il me faut des textes qui m'inspirent, qui me servent de modèle. Et la dramaturgie biblique, la façon de raconter des histoires des auteurs de la Bible, leur façon de dialoguer, etc., leur humour, car il y en a énormément. Et tout ça me servait de point de référence. Et puis après, ayant récupéré la foi que j'avais égarée sur un trottoir, j'ai découvert le côté fabuleusement beau de la spiritualité biblique.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire que ce dictionnaire amoureux de la Bible soit en quelque sorte votre chemin de Damas, puisque pour avoir réalisé un film portrait sur vous, diffusé ces dernières années sur France 2, je sais, vous nous l'aviez confié à cette époque, que votre révélation se situe il y a déjà plusieurs années.
Voilà. C'est un secret.
C'est un secret. Une très belle révélation.
Oui, c'est une très belle révélation.
Mais de l'ordre personnel.
Vous savez, c'est ce que d'aucuns appellent une conversion. C'est un mot dangereux, conversion, parce que ça veut dire que la personne qui se convertit, tout d'un coup, elle devient formidable. Alors, elle ne fait plus de péché.
Elle n'était rien avant.
Ouais, elle n'était rien. Elle était une espèce de peau de banane oubliée. Et tout d'un coup, elle devient formidable. Ce n'est pas vrai du tout. C'est ça. C'est effectivement, c'est une révélation. Voilà, et qui est simplement tellement merveilleuse qu'elle est irracontable.
Ouais, quelque chose qui vous fait tomber de cheval, comme c'est arrivé à ce brave Saint-Paul.
Oui, ou de canapé. Je me rappelle, ça m'avait frappé, comme c'était arrivé au philosophe Maurice Clavel, qui était sur son canapé quand ça surgit.
Toujours une chute, hein, quelque part, non ?
Oui, parce qu'on reçoit un choc.
Vous aussi, vous l'aviez éprouvé comme ça.
Oui, moi, je suis tombé à genoux sur le carrelage de ma chambre. Froissart, lui, dans son église, n'est pas tombé. Claudel non plus. Mais c'est vrai que c'est un coup de poing. C'est un coup de poing. On est, au sens propre, bousculé, secoué. Mais encore une fois, le mot converti, il est discutable, parce que le converti est quelqu'un de très, très bien. Et le club des révélés, je veux dire, on n'est pas devenus des saints pour autant.
Mais c'est le mot révélation qui l'emporte par rapport
oui,
à la conversion.
Bien, oui, j'aime beaucoup le mot révélation.
Recevoir une révélation. Alors justement, pourquoi avoir éprouvé le besoin aujourd'hui en 2010 et quel mot pourrait-on mettre là-dessus pour remplacer besoin, l'envie, le désir fou, de vous livrer à un tel travail? Car je vais vous
merci de dire un tel travail parce que c'est
voilà,
un sacré boulot.
Je vais lire pour orienter et pour éclairer nos auditeurs de Canal Académie. Voilà ce que vous écrivez en quatrième de couverture de cet ouvrage paru chez Plon, le dictionnaire amoureux de la Bible. Cette aventure, amoureuse et nomade, m'a entraînée en Terre Sainte, chez les imprimeurs du ghetto de Venise, à Doura Europos, dans les champs de coton de la Bible Belt, à Babylone, sur les pentes du mont Ararat, chez les Amish, dans les grottes de Qumran, sur les traces des chasseurs d'Éden qui traquent sans relâche le paradis perdu d'Adam et Ève, etc., etc. Mes étoiles pour ce grand voyage dans le temps et dans l'espace ont été toutes ces Bibles dont la vie m'a permis de tourner les pages. La Bible des pauvres, la Bible du diable, la Bible paysanne, la Bible de Voltaire, la Bible d'argent, la Bible de Marcel Carné, la Bible du dernier des Mohicans, la Bible low cost, la Bible de l'homme noir qui assure que de Moïse à Jésus, tous les personnages bibliques étaient noirs, sans oublier la Bible des Gédéons et enfin la bouleversante Bible Vitrail que Chagall fit en mémoire d'une jeune fille noyée. Quel voyage !
Oui, alors certains de ces voyages ont été effectués in vivo, d'autres in vitro, c'est-à-dire que certains sont des voyages dans le temps. Je ne suis pas monté au sommet du mont Ararat. D'autres y sont allés. Curieusement, c'est une des destinations les plus prisées des biblistes. C'est des gens qui sont fascinés par les légendes de la Bible. C'est de retrouver l'Arche de Noé. Tout le monde est persuadé qu'il est au sommet du mont Ararat. Et il y a eu des expéditions absolument hallucinantes qui prétendent avoir vu des choses qui ressemblaient
à un bateau.
Et vous
aussi, ça vous travaille quelque part de retrouver les vestiges d'eux pour apporter la preuve que...
Non. Je suis convaincu que la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui avait une autre fonction, qui est extrêmement belle. Lorsque Nabuchodonosor envahit le royaume, le petit royaume de Juda, et qu'il emmène le peuple d'Israël en captivité à Babylone, brûle Jérusalem, enfin ce qui était Jérusalem à l'époque, il détruit le temple de Salomon, et puis donc ces gens partent pour un exil qui est une véritable déportation. Et c'est tout un peuple qui est déporté, qui est loin de chez eux. À Babylone, c'est loin quand même. Et quand ils se retrouvent là-bas, ils sont désespérés. Au bord du fleuve, ils se sont assis, ils ont pleuré, dit le psaume. Et leurs élites qui étaient avec eux se disent « Mais on ne peut pas laisser un peuple entier tomber dans une dépression nerveuse telle qu'ils vont tous mourir de désespérance. Il faut leur donner une raison de se relever, de leur souffler dans les bronches. » Et l'idée, c'est de leur dire « Vous avez eu un Dieu formidable qui a aidé vos ancêtres. On va vous raconter ce que ce Dieu a fait pour vos ancêtres. » Et commence l'invention, l'imagination de légendes extraordinaires. Alors, le déluge, l'histoire de la mer rouge qui s'écarte pour engloutir les armées de Pharaon, les trompettes de Jéricho qui font s'écrouler les murailles, etc. Ils sont destinés à dire à ces gens ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est votre Dieu, a fait pour vos pères hier, il le fera pour vous demain. Donc, ayez confiance, ne pleurez pas, redressez votre échine, regardez l'avenir avec confiance. Donc c'est au départ un ouvrage, j'allais dire, c'est un ouvrage thérapeutique. C'est un grand médicament, la Bible. C'est un tricot stérile sur la blessure d'un peuple qui hurle de douleur. Donc c'est très émouvant. Mais c'est pas, bien évidemment, personne ne peut prétendre que ces histoires-là soient vraies. Et les archéologues comme Finkenstein aujourd'hui ont démontré que non, qu'il n'y a pas eu d'écroulement des murailles à Jéricho. C'est pas regretté. L'idée est plus belle encore que le fait.
Alors, nous sommes bien d'accord et on transmet ce petit message à l'intention des jeunes générations qui nous écoutent. Quand on dit « dictionnaire amoureux de la Bible », votre livre englobe « Premier Testament », c'est-à-dire la Bible hébraïque, et Deuxième Testament, c'est-à-dire l'histoire, l'enseignement de Jésus.
Ah, celle-là est vraie, alors, par contre. Hein, celle-là n'est pas un tricot stérile. C'est-à-dire la grosse différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la Bible hébraïque et l'univers de Jésus-Christ, c'est que la première est utilitaire, encore une fois, elle est faite pour sauver un peuple de la désespérance, et la deuxième, elle est là pour nous sauver, nous, et pour nous raconter ce que nous sommes et ce qui nous attend.
Mais la première renferme une révélation. La révélation première... de Dieu qui donne le décalogue à Moïse,
tout à
la
fait.
Révélation de ce Dieu présent.
Elle renferme plus même que cette révélation-là, elle renferme la révélation d'une espérance. Parce que ce Dieu est là pour dire, vous n'êtes pas des vermisseaux, je vous aime, je vous connais par votre nom, je vous ai été fidèle, je vous serai fidèle. C'est très très important ce message-là. Mais il n'y a pas dedans le fabuleux message apporté par Jésus-Christ qui est « Je vous promets à chacun d'entre vous une éternité de bonheur ».
Pourtant, vous n'êtes pas d'accord, Didier Decoin, lorsqu'on associe la Bible et à tous ces récits mythologiques pratiquement écrits par des hommes pour d'autres hommes pour les remettre en route, pour les relever, les remettre debout, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, de leur redonner espoir, confiance, etc., dans ce Dieu qui leur avait parlé auparavant. Vous n'êtes pas d'accord pour associer le mot Bible à une sorte de mythologie occidentale à l'usage de nos concitoyens aujourd'hui?
Non, parce que ce n'est pas de la mythologie. C'est quelque chose qui est unique, la Bible. Il y a derrière la légende et l'utilisation des légendes, il y a une vérité. Il y a une vérité que nous ne connaissons pas. Et c'est ça qui est fascinant. C'est de se dire qu'il y a un langage caché. La Kabbale, enfin, on ne va pas entrer pour expliquer ce qu'est la Kabbale, mais ce qui est fascinant quand on parle avec des exégètes, ce que je ne suis pas, hein, des exégètes de la Bible et du judaïsme, c'est qu'eux sont très conscients qu'on est dans un monde crypté, quelque part. Mais qu'est-ce qui est caché? Qui l'a caché? Qui le révélera? Et à quoi ça sert? On n'en sait rien. Mais c'est merveilleux. Moi qui ai gardé mon âme d'enfant, de savoir que la Bible reste un mystère, ça m'enchante.
Et renferme un trésor. Et un trésor que l'on poursuit, que l'on recherche inlassablement, puisque le texte amène à d'autres commentaires sur le texte. Et c'est une étude permanente, éternelle pour nos amis juifs.
Il y avait un film très très beau de Barbara Streisand qui s'appelle Yentl, qui raconte un peu ça, dans une école, une yeshiva. Et oui, vous savez, le judaïsme est très mal connu, très mal compris. Moi, je suis chrétien, mais je suis fasciné par le judaïsme. C'est une forme religieuse qui est d'une très grande beauté, qui est jubilatoire, et qui fait à la fois la part du très quotidien. On mange dans la Bible. Le juif est un être de joie pratique et quotidienne, de vie quotidienne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est déjà dans ce mystère, dans une sorte d'au-delà, etc. C'est formidable.
Les textes bibliques du Didier Decoin, selon vous, seraient-ils l'utilisation, la compilation, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, la résultante, la transformation, la transmission de contes, légendes, connaissances, savoirs culturels, cultuels, existants depuis que l'homme est l'homme, et renfermant cette vérité, comme aurait dit notre ami Calvin, qui appartient à la docte ignorance, c'est-à-dire à ce mystère auquel l'homme n'a pas droit, on ne peut pas dire le mot droit, mais ne peut pas avoir accès, puisque vous nous l'aviez expliqué très bien, c'est que nous sommes un petit bébé et qu'il faudrait être un vieillard pour comprendre peut-être ce que Dieu a voulu.
Oui, je pense que Calvin et Luther, mais peut-être Calvin plus que avait une vision. Il faut pas se leurrer, hein, ceux qui comprennent le mieux la Bible. Alors, ceux qui l'aiment le mieux sont évidemment les Juifs. Ceux qui la comprennent le mieux sont peut-être les protestants. Je ne veux pas dire que les juifs ne la comprennent pas, ni que les protestants ne l'aiment pas. Mais c'est vrai qu'il y a chez les protestants parfois une intelligence au sens brouille intellectuelle de la Bible qui est formidable. Et Calvin avait vu des choses. Moi, je me suis beaucoup, quand j'ai fait ce livre qui m'a demandé 6 ans de travail, je ne suis pas un exégète, il a fallu que j'aille dire que je réapprenne mon alphabet à la lettre A. J'ai beaucoup travaillé sur des livres faits par des protestants parce qu'ils m'ont dégagé des surfaces de connaissances très très larges et très lumineuses surtout.
En allant à l'essentiel du texte.
En allant à l'essentiel du texte et en regardant aussi justement le non connu, le non connaissable, non pas l'interdit, mais ce que l'homme ne peut pas connaître parce qu'il n'a pas l'équipement pour. Regardez cette chose toute simple. Alors, elle relève du Nouveau Testament. Jésus dit plein de choses sur plein de sujets. Pendant ces 3 ans où il marche avec ses disciples, c'est effrayant, il parle sans arrêt. Il y a un domaine où il ne dit rien, et c'est pourtant le plus intéressant pour nous. C'est le domaine de nos fins dernières, de l'au-delà. À quoi ça ressemble, le ciel ? Dont il dit, mon Père du ciel, je vous préparerai une demeure dans le ciel, etc. Il n'y a pas un mot d'explication. Il me semble que les disciples qui marchaient avec lui ont dû lui dire, mais attends, c'est bien joli ton histoire. Ça ressemble à quoi là-haut ? Dis-nous, raconte-nous, toi qui sais. Personne mieux que toi ne peut nous le raconter. Et Jésus ne dit rien. Il ne dit rien, pourquoi ? Parce que le cerveau humain, le cerveau de ses disciples et le nôtre pareillement, n'est pas équipé pour comprendre. Il ne peut pas comprendre. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, je ne pouvais pas leur expliquer comment marchait un sous-marin nucléaire. C'est même pas ce qu'était un sous-marin et que ça pouvait. Bon, et ben nous en sommes à ce stade-là, et je trouve ça merveilleux quelque part que ne soyons pas équipés pour cette connaissance. Mais je me dis, il y a effectivement une connaissance quelque part qui vole au-dessus de nous, qui nous dépasse, qu'on connaîtra un jour. Si tu me voyais, dit Dieu à Moïse, tu en mourrais. Sous-entendu, si tu me comprenais, si tu me voyais tel que je suis, donc si tu me comprenais, tu en mourrais. Parce que tant qu'on est humain, on peut pas comprendre. Mais on peut rêver, et on peut aimer, et on peut adorer dire ça.
L'utilisation de toute façon de 5% de nos capacités cérébrales. Donc.
Mais même si on utilisait 100% de nos capacités cérébrales, on ne pourrait pas comprendre Dieu. Ou alors, c'est nier Dieu. C'est encore Maurice Clavel qui disait ça. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Il n'y a pas une phrase plus belle pour définir le Seigneur. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Ça veut dire je n'y comprends rien, et je suis ravi de n'y rien comprendre, parce que ça prouve qu'il est plus grand que moi. Si Dieu me ressemble, il ne m'intéresse pas. Si en me voyant dans la glace, je vois un reflet de Dieu, alors honnêtement, je ne vais pas m'embêter toute ma vie à croire en ce personnage falot qui se rase de tous les matins. Il faut qu'il soit immense, infini, incompréhensible, incommensurable, tous les adjectifs que vous pouvez trouver. Et c'est ça que nous dit la Bible. Vous y comprendrez de toute façon jamais rien. Alors, mais adorez, adorez, époustouflez-vous. Émerveillez-vous, enchantez-vous, comme quand vous étiez un petit enfant et qu'on vous racontait une histoire féerique. Vous dites, mais c'est pas possible. Et papa et maman disent, peut-être que si, quand même. Voilà, c'est ça la Bible.
Est-ce que, tout de même, à la lecture du livre des Proverbes, à la lecture du magnifique enseignement de Jésus, tout normalement devrait converger vers l'harmonie, vers le souci de l'autre, vers l'amour triangulaire entre Dieu, l'homme et l'autre, celui qui est en face de moi. Donc, un appétit, une recherche désespérée de l'harmonie. Est-ce qu'une révélation ne nuit pas à une autre révélation ? Est-ce que le fait de dire ce sont ces livres qui renferment la révélation avec un R majuscule, cela n'empêche pas nos chercheurs, est-ce que ça n'empêche pas nos matières grises d'aller à la recherche de la révélation que les Indiens avaient peut-être dans leur culture ? Comment voyez-vous toutes ces révélations, cette convergence de révélations par rapport au mystère, au secret, à l'heure des exoplanètes, à l'heure de la physique quantique ?
Moi, je les vois comme d'abord une chose qu'il ne faut pas figer. Surtout pas. C'est pour ça que je dis, attention, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Parce que à ce moment-là, je veux dire, elle est... Bon. Regardez le problème que pose le Coran, qui est un texte admirable de beauté. Il faut lire le Coran. C'est, poétiquement, c'est très beau. Ça pose un problème. C'est qu'on ne peut pas toucher une virgule au Coran parce que c'est un texte qui a été dicté par... Enfin, c'est le texte de Dieu. C'est le livre de Dieu. La Bible, c'est le livre d'hommes qui ont écrit pour d'autres hommes. Donc, on peut déjà le toucher. On peut le révérer, on peut dire que c'est un livre admirable, mais je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un livre sacré au sens qu'il est figé de par la volonté et le diktat de Dieu. Donc il est ouvert à tout. Donc si demain on va découvrir non seulement une exoplanète, mais une exorace, des aliens, etc., qui ont d'autres dieux, peut-être une autre connaissance de Dieu, ce sera toujours le même Dieu, car où il y en a un, où il n'y en a pas.
Les interprétations ouvriront.
Alors, les interprétations sont extrêmement larges. Moi, je ne vois pas pourquoi un animiste de Nouvelle-Guinée, je crois qu'il en existe encore, connaîtrait, enfin, je veux dire, aurait une moindre connaissance de la divinité que moi. Il a une autre connaissance de la divinité. Mais du moment qu'il a le concept, l'idée, l'approche de quelque chose qui le dépasse, vers quoi il tend, qui ne comprend pas, mais qui le respecte, ben voilà, on est dans le même schéma. Mon père disait, je lui disais souvent, mais papa, quel est le plus grand metteur en scène du monde pour toi? Allez, dis-moi. Il me dit, il y en a un, oui, il y en a un. Mais dis-le. Mais c'est l'Église catholique romaine. Il me dit, regarde une cérémonie. Oui, c'est pas faux. Vous regardez certaines cérémonies de Vatican et autres, c'est somptueux. C'est somptueux. Mais c'est une façon d'honorer Dieu. Mais le fétichiste qui, lui, célèbre devant un fétiche en bois taillé avec des plumes de casoar, de ce que vous voulez, dedans, mais lui aussi, il célèbre. Peut-être que sa façon de célébrer, pour moi, elle vaut autant que les grandes orgues tonitruantes. Et vous voyez, je crois qu'il faut être... Ce qui manque, me semble-t-il, à l'être humain quand il pense et quand il parle de Dieu, c'est l'humilité. Il croit qu'il a compris. Non, il faut savoir qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est aussi incompréhensible que de dire à un nourrisson E égale MC2. Et maintenant, mon chéri, dis-moi ce que ça veut dire E égale MC2. Et le bébé fait heureux, heureux. Et vous dites, il est con. Non, il est un bébé et E égale MC2, c'est Einstein. On est exactement dans le même schéma. Nous ne comprenons pas. Mais soyons heureux de ne pas comprendre.
Mais vous ne trouvez pas, Didier Decoin, que c'est un cadeau magnifique que d'adresser ce message aux jeunes générations? Car tout reste à découvrir.
Oui.
Le mystère reste entier. Nous avons fait ce que nous avons pu pour transmettre, mais nous leur transmettrons ce que nous avons reçu au démarrage de notre vie. C'est-à-dire, nous n'en savons pas plus.
Vous savez, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites que, ça c'est peut-être pas joyeux, mais c'est grave, mais c'est important, c'est que la Bible n'est pas un livre fini, et qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'il manque notamment un chapitre, un livre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a 50 livres dans la Bible. C'est une bibliothèque, Bible veut dire bibliothèque, qui serait la Shoah. La Bible ne parle pas de la Shoah, et pour cause, puisqu'elle a été écrite avant. Mais est-ce que la Bible ne mériterait pas, moi je pense que oui, d'avoir en elle un texte qui soit référent à la Shoah? C'est quand même pas innocent dans le projet divin que 6 millions de Juifs, donc théoriquement élus par Dieu, protégés par Dieu, aimés de Dieu, aient disparu de la manière atroce dont ils ont disparu. Donc peut-être qu'on peut continuer la Bible. Je ne vais pas m'avancer, mais je crois que Wiesel n'est pas tout à fait contre ce genre d'idée. Ce n'est pas un livre fermé. Et les futures générations, leur mission, c'est d'analyser ce livre, d'essayer de le comprendre mieux que nous ne l'avons compris, de l'aimer mieux que nous ne l'avons aimé, mais peut-être de le continuer. Nous sommes tous co-auteurs de la Bible par nos vies. Continuons d'être des co-auteurs.
C'est assez révolutionnaire comme idée.
Je ne sais pas si c'est révolutionnaire. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon bouquin, la Bible. Même les livres que j'écris, moi, sont moins à moi que la Bible. C'est mon histoire qui est dedans. C'est l'histoire de ce qui m'a fondé, de l'humanité, et c'est l'histoire de ce vers quoi je vais. Donc, c'est mon livre.
Oui, on le disait tout à l'heure, la Bible de Carnet, la Bible des Mohicans, la Bible de l'homme noir, etc. Oui, donc, un système d'appropriation.
Mais absolument. Mais tout le monde non seulement peut, mais doit s'approprier.
Parce qu'on s'y retrouve, on est dedans, non? C'est l'histoire de nos prédécesseurs.
Et de nous, aujourd'hui, ouvrez une... Enfin, tout le monde fait cette expérience. Ouvrez une page de la Bible au hasard, vous allez voir, ça vous concerne. Faites-la l'expérience, c'est vrai, c'est vrai. On est dedans. C'est comme quand on voyait un film, grand écran, cinémascope, qui montre une foule qui est sur les grands boulevards de Paris, par exemple, qui va au moment des fêtes de Noël vers les grands magasins, etc. Et puis vous dites, ah, c'est toi là-bas, je t'ai reconnu, c'est toi. Bon, eh bien, c'est pareil, vous faites pareil avec la Bible, vous ouvrez une page, vous dites, mais c'est vous là-dedans, c'est moi là-dedans, on est tous dedans.
Les archétypes humains. Ouais. Alors justement, puisque cette Bible est tellement foisonnante, quelle porte d'entrée nous proposez-vous par rapport à ce dictionnaire amoureux de la Bible, paru chez Plon?
Alors amoureux, ça voulait d'abord dire, ça veut dire évidemment que j'aime, mais ça veut dire subjectif. C'est-à-dire que toutes les entrées n'y sont pas. J'ai laissé sur le quai beaucoup de sujets, de personnages, d'histoires, etc. D'abord parce qu'il fait plus de 600 pages et que l'éditeur disait qu'il faudrait me remettre le manuscrit. Mais c'est vrai que j'aurais pu continuer indéfiniment. Moi, ce que je propose, c'est une lecture, j'allais dire, si je dis moderne, c'est pas le mot, c'est la Bible fait partie de notre belle aujourd'hui. Et j'ai voulu dépoussiérer ce livre, parce que quand j'ai commencé de l'écrire, on m'a dit, mais attends, c'est emmerdant la Bible, c'est des vieux mots, c'est des vieux gens, c'est pas intéressant, c'est suranné, c'est poussiéreux. J'ai dit, attends, c'est vachement moderne. Et donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Il y a les musiciens dont je parle, sont des musiciens extrêmement modernes, les peintres dont je parle sont des peintres très, très modernes. C'est pas du tout une Bible croûteuse, c'est une Bible de notre ère. Comment relire la Bible en 2010 et en 2011, 12, 13?
Alors, certains spécialistes, Didier de Coin, soutiennent que dans ses origines les plus lointaines, le monde était régi par le matriarcat. Et avec l'avènement des monothéismes, judaïsme, christianisme, coranique, etc., eh bien, avec l'institution du mariage, dans le décalogue, etc., tu ne pratiqueras pas la fidélité, etc., eh bien, c'est le patriarcat qui a vu le jour en créant la cellule familiale, en instituant la notion du mariage, etc. La Bible est pour vous un livre qui respecte les quotas hommes-femmes ou c'est un livre d'hommes ou de femmes ?
Non, c'est pas. Je vais faire une cote mal taillée. C'est certainement pas un livre misogyne. Je ne crois pas. Il y a des personnages, des figures féminines comme Esther qui sont absolument extraordinaires. Il y a la Vierge Marie, c'est pas n'importe qui non plus. Cela dit, pour autant, c'est pas non plus un livre machiste. Les quotas sont pas respectés parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais il faut bien voir qu'on est à une période où la cellule familiale est aussi une cellule de défense contre les dangers du monde, dangers naturels, dangers de la famine, dangers de la guerre, dangers de la précarité de la vie, etc. Et que c'était quand même l'homme qui était le plus apte à empêcher, je veux dire, le lion, c'est une image figurée, hein, le lion de bouffer le troupeau. La femme était là pour aimer. Enfin, bon, mais c'est vrai que Lee fait quand même la part très très belle aux femmes. Il faut le lire. Pas seulement les histoires qui ont des titres de personnages. Si c'est l'histoire d'Abraham, vous dites, ah, bon, l'histoire d'Abraham, c'est encore un mec. Ben, il y a Sarah dans l'histoire d'Abraham. C'est pas n'importe qui. Il y a la servante formidable qui va mettre au monde Ismaël. Il y a des femmes qui ont non pas des premiers rôles, mais pas non plus des rôles de figuration, qui sont des seconds rôles formidablement fondateurs.
Il faudrait revoir l'intitulé des chapitres. Alors.
Il y a eu des livres, je pense par exemple à un livre qu'a écrit Michel Kahn il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Les femmes de la Bible, où elle dit très très clairement, elle trace des portraits. Et il faut le relire avec. Vous savez, la Bible, c'est un livre où il faut être sincère quand on l'ouvre. Si vous allez chercher des femmes dans la Bible, je vous garantis que vous allez en trouver et une belle constellation.
Didier de Coin, quel enseignement essentiel dans la Bible ?
La joie. La joie. La joie, c'est un livre plein. Alors, on m'a dit, c'est un livre plein de violence. Il y a un peu de violence, mais dans notre vie aussi, il y en a. Mais c'est un livre jubilatoire. Parce que tous les personnages de la Bible ont une quête éperdue, c'est celle du bonheur. Ils ne veulent pas être plus riches, ils ne veulent pas être plus gros, ils ne veulent pas être plus gras, ils ne veulent pas être plus victorieux, ils veulent être plus heureux. Ils revendiquent le droit au bonheur, comme on parle d'un droit d'auteur, je crois qu'on veut parler d'un droit du bonheur, et tous les personnages de la Bible en veulent, de ce bonheur. Et ils en veulent avec joie. C'est pas du tout un bonheur éteint, triste, maussade. C'est un livre jubilatoire, c'est un livre de joie.
Didier de Coin, merci d'avoir participé à cette émission.
Merci d'avoir feuilleté ce gros livre avec
moi. Oui, je dois dire 600 pages, mais dans un format très agréable et pas lourd du tout.
Mais c'est une collection épatante.
Ah oui, très belle collection, donc paru chez Plon, le dictionnaire amoureux de la Bible, écrit par Didier de Coin de l'Académie Goncourt. Merci Didier de Coin d'être venu et à très bientôt. Avant de nous quitter complètement, je signale aux éditeurs de Canal Académie que votre avant-dernier ouvrage intitulé « Est-ce ainsi que les femmes ?» meurt, paru chez Grasset, a lui aussi remporté un très joli succès. Vous êtes aussi l'auteur chez Kalman Levy, alors on revient à des lectures plus bibliques, de la Bible racontée aux enfants, et puis chez Stock, Jésus, le Dieu qui riait. Et nous avons terminé l'émission par la joie.
Et par le rire.
Merci.
Merci à vous.